Bonjour et bienvenue à l'épisode 13 de Québécois. Salut Charles.
Salut Gabriel.
Cette semaine, on va surtout vous parler de la situation politique locale. Je pense que c'est un sujet qui est assez à propos. Puis on a enfin des choses intéressantes à discuter là-dessus parce que les campagnes commencent à s'échauffer. Fait que peut-être on pourrait faire le tour de Montréal. On va voir qu'est-ce qui s'est passé cette semaine à Montréal.
Ben, c'est sûr que c'est la plus grosse campagne municipale, là, sans doute suivie par celle de Québec, étant donné l'importance économique et politique de la ville. À Montréal, la dernière fois qu'on en a parlé, la campagne venait tout juste d'être lancée. On avait émis quelques réserves concernant par exemple, la plateforme de Mme Plante, mais il n'y avait rien encore de vraiment très concret. Et depuis, ben, tous mes doutes sont concrétisés.
Ouais. je vais dire, je suis pas très impressionné, moi non plus.
Mais en fait, ce qui est particulièrement troublant, c'est la complaisance des médias à l'égard des promesses de Mme Plante, qui semble être jamais remis en question. On lui demande très rarement ses chiffres, alors qu'elle fait des promesses qui ont un coût économique. Je veux savoir si elle a fait le travail de les vérifier ou si c'est juste garoché en l'air.
Promettre une ligne de métro, là. C'est toute qu'une promesse pour une madame qui a vraisemblablement, qui est bien loin encore des budgets de la ville. Parce que la ville ne construira pas un métro à elle tout seule. C'est pas vrai là, que la STM va se faire un budget de plusieurs milliards de dollars à eux autres tout seuls. Il faut aller chercher du financement du Canada, de Québec. Ça, je comprends pas, là. Elle nous annonce une ligne rose, en passant parce que féministe. Puis, déjà, là, on commence mal. juste dire...
On va se faire un plaisir à faire un épisode complet là-dessus.
Non, faudra qu'on fasse un épisode sur le féministe, là, parce que ça bouillonne.
Mais ça s'en vient, là. La Fédération des femmes du Québec s'apprête à dire une connerie, donc on va pouvoir en parler.
ça va être à propos ça, à ce moment-là. Fait que, déjà, sa ligne rose, qui est une ligne complète, qui n'existe pas, qui doit passer par le Mont-Royal, en passant, là, puis elle nous évalue ça à 6 milliards. 6 milliards, c'est le prix qu'ils nous ont coûté 3 stations de métro pour aller à Laval. Je veux bien, là, oui, c'est vrai qu'on a passé en dessous d'un canal d'eau, là, mais dynamiter une montagne, tant qu'à moi, c'est pas beaucoup mieux.
Mais c'est-à-dire qu'au-delà, ne serait-ce du coût économique, on regarde un autre projet qui, à mon avis, m'apparaît plus réaliste, c'est-à-dire allonger la ligne bleue jusqu'à Ville d'Anjou. Ça fait 30 ans qu'on en parle. Peut-on régler ce projet-là qui est de moindre envergure avant de réaliser autre chose? D'autant que si la caisse de dépôt de placement finit par pouvoir avoir les autorisations, ils vont déjà être en train de construire le réseau électrique sur rail. Est-ce qu'on veut en même temps commencer à faire un métro?
Mais oui!
Déjà que la circulation est difficile. Les villes adjacentes à Montréal se plaignent que les bouchons de circulation ralentissent leur circulation aussi, parce que les bouchons commencent là. Wow. Alors, si on veut encore plus paralyser la ville, je veux une recette gagnante. Faites de la construction sur tous les flancs en même temps.
Mais c'est déjà pas mal comme ça à Montréal. Puis ça, c'est un truc que les gens reprochent beaucoup à Coderre. On lui reproche toute la construction qu'il y a depuis quelques années, depuis qu'il est là, comme si c'était une mauvaise chose qui entretenait la ville. Oui, il y a des problèmes peut-être au niveau de la gestion, comment ça se passe. Sauf qu'à l'hôtel de ville, ils ont un problème qui n'est pas facile. C'est les syndicats qui mènent. Venez pas me faire croire que Coderre a libre cours à décider comment ça se passe, là, ces chantiers de construction-là. On le voit, c'est super mal organisé. Il l'a dit lui-même l'année passée. Il l'a dit, on va faire un trottoir, on revient l'année d'après pour faire l'asphalte. Là, on réalise qu'il faut faire les égouts, fait qu'on creuse l'asphalte puis le trottoir encore une fois, puis on les fait toutes deux fois. Fait que oui, c'est sûr qu'il y a des problèmes de communication, qu'il y a des problèmes à arranger, mais ces problèmes-là sont pas là parce que c'est Coderre. Ces problèmes-là sont là depuis vitam aeternam. On avait le maire book que lui, que ça, sa grosse affaire, c'était de planter des fleurs. Fait qu'il a planté des fleurs partout. mais dans ce temps-là, les infrastructures s'écroulent. Tremblay, ça a valu ce que ça a valu. J'avais de l'espoir pour Madame Plante, parce que je me disais, elle pourrait apporter quand même un sang nouveau. Fait que je cherchais une raison pour voter pour elle, parce que je veux vraiment pas voter pour Denis Coderre. Il y a quelque chose dans ce bonhomme-là qui me fait que je veux pas voter pour lui, mais calice, j'ai pas le choix de voter pour Denis Coderre, parce qu'il est le seul qui a de l'allure dans la gang. Fait que, tu sais...
Oh. Ben, surtout qu'il a réussi à se constituer quand même une équipe très solide.
Ben oui!
Ne serait-ce qu'en recrutant Richard Bergeron, ouais, qui était son ancien adversaire politique. Rallier ses ennemis, c'est sans doute une des meilleures marques de leadership.
Ouais.
Puis bon, on l'a mentionné la dernière fois, là, Richard Bergeron, très ferré en urbaniste. Tu veux ce gars-là dans ton équipe. Dans une partie de badminton, là, tu prends ce gars-là.
Moi je vais te dire ce qui m'inquiète de Denis Coderre. Quand je l'écoute parler là, à la télévision, puis des fois je l'insulte via Twitter aussi, là, parce qu'il aime bien ça, Twitter. Il me répond aussi des fois. Hein. Fait que, si vous voulez parler de Denis Coderre, envoyez-lui un tweet, il y a des grandes chances qu'il va vous répondre. Surtout si tu parles de Uber, en tout cas, ça c'est une autre histoire. Denis Coderre, ce que j'ai remarqué, moi, il me fait penser à Jean Chrétien. Puis, il ne faut pas oublier, c'est un ancien libéral de cette époque-là, là, de Denis Coderre. Si tu regardes la façon qu'il gère les médias, puis le ton de sa voix, puis la manière qu'il s'exprime, tu sais, comme cette semaine, il y a quelqu'un qui a posé la question à Denis Coderre, tu sais, hey, c'est-tu normal que tu aies des visites non déclarées dans ton bureau? Puis, la façon que M. Coderre a répondu, c'est vraiment... Moi, ça me a rappelé ça. Ça fait un petit peu de... Ben voyons donc, t'es donc ben niaiseux. T'sais, le monde vient dans mon bureau, il est ouvert, tout le monde voit qu'est-ce qu'il y a là. J'ai bien le droit d'avoir de la visite. Moi, c'est à peu près ça qu'il a dit. Puis, moi, j'ai eu comme un flash de Jean Chrétien là, avec ses super belles phrases comme « Me pepper, I put it in my plate ». Fait que... c'est peut-être... ça qui me rend mal à l'aise, parce que Jean Chrétien, on l'a su par après, c'était le summum de la corruption dans ce groupe-là. Fait que...
c'est toujours ça le danger quand on a un pouvoir centralisé.
Ouais.
Et le but, c'est justement de décentraliser un maximum de décisions pour, d'une part, réduire le pot que des possibles collusionnaires pourraient se partager.
Ouais.
Et quand la cagnotte est plus petite, ça devient justement plus risqué, puis le jeu n'en vaut pas nécessairement la chandelle. Donc, décentraliser réduit l'incitatif des collusionnaires et aussi ramène les résultats au niveau du public, ouais, qui est à ce moment-là en meilleure position d'évaluer si les résultats ont été atteints. Et on a un auditeur qui nous écrivait qu'à Laval, il n'y aurait à peu près pas de débat, ou du moins qu'il y aurait des rumeurs qu'il y en aurait un, mais qui serait payant à la chambre de commerce de la ville. Je trouve ça un peu déplorable. Je comprends que c'est pas nécessairement toutes les villes pour lesquelles c'est pertinent de tenir un débat télévisé, mais au moins une rencontre dans une école ou un centre communautaire où les gens peuvent aller poser leurs questions.
C'est pas compliqué à organiser, là. Un podium ou une table avec deux chaises puis quelqu'un qui pose des questions, ça, c'est pas si compliqué que ça. Puis plus petit est la ville ou le village, moins les enjeux sont compliqués.
Ouais, c'est sûr.
On s'entend là, que, le panneau d'arrêt à la rue principale, il est brisé depuis 2 ans. Là, c'est pas compliqué à régler. Mais dans une ville comme Laval, qui est en expansion, qui a eu, dans les dernières années, des scandales politiques à pu finir.
De toute beauté.
De grande beauté.
Ils ont été mis sous tutelle, je pense.
Oui, à un moment donné, ils étaient sous tutelle. Fait que, donc... je pense que c'est important pour les citoyens de Laval d'avoir leur mot à dire puis d'entendre ce que ces gens-là ont à leur offrir. Je comprends pas, là, que si c'est vrai la rumeur qui veut que pour assister au débat, il faut que tu payes, c'est un affront à la démocratie.
Si c'est devant la chambre de commerce, c'est pas surprenant, parce que souvent, ce genre de rencontre-là, il s'est servi avec un repas, puis bon, c'est comme un genre d'événement. Mais il devrait avoir une alternative.
Oui, mais ça veut dire que c'est pas un vrai débat, là. OK, là? Si on fait un événement payant, puis qu'il va y avoir tout du froufrou de la Chambre du commerce, là, il y a quelque chose qui cloche, là.
Non, pas nécessairement. C'est-à-dire qu'ils viendraient exposer leur vision aux entrepreneurs. Savoir comment est-ce que le développement des affaires va opérer.
Mais c'est parce que Oui, les entrepreneurs, ils ont du vote, là, mais les maires ne sont pas là nécessairement pour les entrepreneurs. Ça,
C'est sûr.
c'est là pour les citoyens. C'est les
C'est juste important que les candidats aux élections municipales se souviennent que le but d'une élection municipale, c'est d'être proche du monde. Vous savez, sur vos chèques de paye, là, on vous cotise l'argent pour le fédéral et le provincial. Ça s'en va, vous ne le voyez plus. Mais au municipal, là, vous le voyez si les rues sont bien déneigées, si les infrastructures sont bien entretenues, si les services de transport en commun sont bien gérés. Vous êtes à même de le constater.
C'est les restaurants, c'est
Puis,
ça.
si
S'ils
dans
sont
votre
pas
région,
trop
il n'y a pas
infestés.
suffisamment de débats, ben demandez-le.
Ouais. Puis moi, je pense que c'est vraiment aux gens de Laval de l'exiger. C'est quoi la population de Laval? 300 000 à peu près, en quelque part de là, peut-être un petit peu plus. C'est pas insignifiant. C'est une grosse masse
C'est
de
une grande ville. Oui, il y a
population.
beaucoup de commerce.
Puis c'est une ville qui est en développement, Laval. Il se passe beaucoup de choses. Si on compare dans les dernières 20 années, qu'est-ce qui s'est. Laval, c'est transformé. Il commence à avoir des affaires intéressantes à Laval. Il n'y a pas juste Montréal. Fait que je pense qu'en tant que citoyen, moi, si j'étais Lavallois, puis je ne le suis pas, mais si j'étais Lavallois, je pense que j'appellerais moi quelqu'un, j'appellerais la mairie, j'appellerais mes conseillers municipaux, je me présenterais à l'hôtel de ville. Parce que c'est pas vrai que je laisserais ça passer. C'est injuste d'avoir une élection sans qu'on ait vraiment une idée de c'est quoi les enjeux, c'est qui les gens qui se présentent. Puis c'est pas assez de mettre une pancarte sur un poteau électrique.
Ou d'avoir un beau petit message préformaté devant une caméra. Il n'y a rien comme un bon débat pour débusquer les imposteurs.
Ou encore pire, OK? Cette semaine, j'ai fait débrancher mon téléphone, ma ligne résidentielle, une vraie ligne, là, contrairement à un cellulaire, parce que j'étais carré de recevoir des appels des candidats. Parce qu'il n'y a rien qui m'énerve plus qu'un petit, je sais pas trop qui, que tu sais. Écoute, on s'entend les bénévoles qui travaillent pour eux autres, là, leurs intentions est bien bonne. Puis je comprends qu'ils croient dans leur candidat, mais les bénévoles qui sont pognés au téléphone, j'imagine que ce n'est pas les gens les plus influents de la campagne de nos partis locaux. Fait que tu leur poses des questions, ils n'ont pas de réponse. Ils radotent un speech qu'ils ont appris par cœur. Moi, ça me fatigue, puis ils appellent tout le temps, bien sûr, à l'heure du souper, parce qu'ils savent qu'on mange. C'est pas des moyens insuffisants. Faut exiger une conversation, puis un débat à air ouverte. Puis, t'sais, entre autre, c'est pour ça qu'on a fondé le podcast, parce qu'on trouve qu'il n'y en a pas assez. Puis ça, c'en est un autre exemple d'une situation où ce qu'on essaye de fermer le débat, puis fermer les idées. C'est-tu par exprès? Je sais pas, mais moi je trouve ça louche que des politiciens ne veulent pas débattre. C'est ça leur job.
Ben, à Montréal, on va juste avoir deux débats. Ce qui m'apparaît quand même peu considérant l'étendue des enjeux à visiter, c'est quand
Ouais, mais
j'aurais préféré en avoir trois,
regarde,
au
au
moins.
national, c'est pas beaucoup mieux, là. Mais là, le national, pardon, là. Au fédéral, d'habitude, pour les élections fédérales, c'est un français, un en anglais. À part de tous les petits débats qu'il y a localement. Mais oui, mais c'est ça. Même dans les circonscriptions au niveau fédéral, on fait des débats.
Oui, moi
Fait
j'y
que.
vais, puis j'ai du bout de plaisir à
Ben,
poser des
c'est
questions
sûr.
contraignantes.
Mais oui.
À la rigueur, même si vous n'êtes pas la personne la plus à l'affût de l'actualité, si vous y allez, puis il y a d'autres personnes qui, eux, ont plus de temps à perdre, puis, comme vous autres, puis qui lisent les journaux, qui regardent les nouvelles compulsivement, eux vont poser des questions. Vous allez pouvoir, même en étant peut-être moins informé, juger de la réaction des politiciens qui seront
Oui,
confrontés à de l'information.
oui.
Et c'est là que vous pouvez faire votre idée. Écouter une personne répéter sa pièce de théâtre, ça n'a aucune plus-value. Il faut les regarder se mouiller un petit peu. Et c'est ça le but, c'est que ce soit décentralisé pour être proche du monde. Parce que c'est seulement les gens. Soit vous payez des taxes foncières, soit vous payez des augmentations de loyer qui suivent les augmentations de taxes foncières. C'est votre argent que vous confiez à d'autres personnes, à vous déléguer votre pouvoir d'achat à des gestionnaires. Faut que vous ayez votre mot à dire là-dessus. Au niveau de la décentralisation, il y a le gros débat entourant Netflix. Est-ce qu'il faut taxer, pas taxer l'investissement de 500 millions? Bon, on va essayer de décortiquer ça un petit peu là, pour y voir plus clair, puis placer les pièces de l'échiquier sur le board, puis savoir qui au fond le. Qui au fond a le mot de la fin dans cette histoire-là. Présentement, c'est notre sublime ministre du patrimoine canadien, l'honorable Mélanie Joly, qui doit négocier
C'est
avec
un joli problème,
Netflix. Et j'ai un gros problème avec ce que je viens de dire. Parce qu'on confie à un gouvernement central le soin de négocier avec une compagnie à huis clos. Plutôt que de juste avoir quelque chose. Je ne suis pas en faveur des taxes. Les taxes, à mon avis, prennent beaucoup trop de place dans notre budget et rapportent relativement peu en plus-value pour notre vie. Il y a beaucoup de gaspillage. Hein. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus, là. Mais je préférerais une solution uniforme qui s'applique à tout le monde plutôt que d'avoir une entente négociée où le gouvernement arrange un deal avec un, arrange un deal avec un autre, puis là, on choisit qui a une exemption, qui en a pas. On dirait que c'est comme si on n'avait pas appris du passé. C'est comme ça que ça commence la collusion. C'est quand les business et les gouvernements s'arriment plutôt que de laisser le marché opérer. Donc, il y avait des rumeurs là, depuis quelques années que le gouvernement voulait changer la loi fiscale pour taxer les services en ligne, comme Netflix ou encore comme iTunes. Parce que présentement, ces services-là ne sont pas tenus de collecter la taxe. Puis, qu'on se le tienne pour dit, là, ces compagnies-là ne paient pas la taxe, ils la collectent. Donc, c'est vous qui la payez. Et je suis toujours surpris de voir des gens qui disent « Oui, collectez-moi
Qu'est-ce que tu veux dire, il collecte la taxe? Je comprends
Ben, c'est que, en anglais, taxe, c'est que ça veut dire deux choses, là, mais nous, c'est qu'on va distinguer l'impôt et,
pas.
mettons, la taxe de vente.
Oui.
Ben, Netflix, une société américaine, paie ses impôts sur ses revenus mondiaux aux États-Unis.
Oui.
Bon. Au Canada, ils ne sont pas tenus de collecter la TPS et la TVQ, par exemple, parce que la loi fiscale dit que ce sont des biens qui viennent des États-Unis.
Ouais.
Et là, il y avait des rumeurs comme quoi on voudrait modifier cette loi-là pour que Netflix soit assujetti à la TPS et à la TVQ. Bon, là, Justin Trudeau a dit non en juin dernier à la TPS sur Netflix. C'est une décision qui peut être débattue, hein, pour ou contre. Le Québec, lui, veut imposer la TVQ. Et là, et c'est ça l'affaire, c'est que c'est pas Netflix qui va payer ça. C'est vous qui allez le
Ben oui, c'est
payer.
ça,
C'est
c'est nous autres.
Netflix qui va vous cotiser et qui va la remettre au gouvernement à la fin du mois. Netflix là-dedans, là, c'est juste un
Puis,
intermédiaire.
j'essaie d'imaginer qu'est-ce que ça représente en termes d'argent pour le gouvernement québécois. La taxe de vente du Québec, c'est quoi? C'est 6%, 7%?
Au Québec, la TVQ, c'est 9,975%.
Ah oui!
Oui,
C'est le double de la taxe fédérale.
Oui, c'est le modèle québécois en action. Quand
Tabarnak.
Harper a diminué la TPS de 7 à 5 %, je crois en 2006 ou 2007, le Québec s'est dit, ben, on pourrait augmenter la TVQ de
Écoute,
2 %.
là, on est en train de niaiser sur des gouttes d'eau dans un vase, là. Parce que si moi, à peu près, mon abonnement me coûte à peu près quoi, 10 piastres par mois, là, ça veut dire que c'est une pièce de taxe par mois. Fait que là, je suis rendu à 12 piastres par année. On est combien de millions au Québec qui regardent
Au
Netflix, là?
Canada, il y a 6 millions d'abonnés
Fait
Netflix.
qu'on peut dire qu'il y en a peut-être un au Québec. Peut-être. Si on est généreux dans nos trucs. Fait que ça représente quoi, 12 millions de taxes, grosso modo, là, si on fait un compte vite. 12 millions sur le budget du Québec, ça représente quoi? Fuck all. Ça représente rien. C'est du niaisage.
Mais c'est aussi une question, puis je comprends cet argument-là. Il y a une question d'équité face à la loi pour toutes les compagnies qui opèrent au Canada. Parce que ça place dans une situation un peu délicate la compétition de Netflix, comme Crave TV de Bell, le Club Illico pour Vidéotron. Il y avait
Xiaomi, ouais.
Xiaomi là, de Rogers
qui
qui
a
a
fermé.
fermé. Donc, eux doivent collecter les taxes parce que c'est des services canadiens. Netflix, non, vu que c'est un service américain. Donc, mais la face, c'est que si tu ouvres la porte à taxer Netflix, ben là, c'est que
Mais
tu
c'est
demandes,
ça.
tu taxes plein d'autres affaires.
C'est ça. Ça ne s'arrête pas à Netflix.
Non.
Parce qu'on peut pas, en tant que gouvernement, dire OK, non, cette compagnie-là, on va les taxer. Parce que ça a aucun sens.
Une loi, c'est général, ça s'applique
Ben, c'est
à
ça.
large, hein?
Tu peux pas dire Ah non, toi, on va te taxer, mais ton compétiteur, on ne te taxera pas. Si jamais que Hulu, il décide de venir au Canada, tu sais. ça serait comme injuste de taxer Netflix puis pas taxer Hulu. Fait qu'on les taxe toutes ou on les taxe pas. Ça me dérange moins. Mais l'affaire, c'est que assurez-vous que l'impact économique de ça est bien étudié. Parce que je peux pas croire que quand, si on ouvre ce genre de taxation-là, il va avoir un impact après ça. Là. Qu'est-ce que les consommateurs vont faire une fois que tous ces biens-là, qui sont pas nécessairement originaires du Canada, se font taxer tout de suite? Ça pourrait devenir problématique. Ça va être quoi l'impact sur l'économie? Je sais pas. Je suis pas sûr que c'est Justin Trudeau qui a trop pensé non plus.
Mais il y a un argument quand même que j'ai peu entendu dans les médias, voire pas du tout, c'était, je lui ai dit, j'aime pas spécialement qu'on taxe. On dirait que c'est la seule solution que les gouvernements ont. Il y a un problème, on va le taxer. Non, une taxe n'est pas toujours une bonne solution. Quand ta seule solution, c'est de régner par la législation, ben ça crée des loopholes, puis ça fait un déséquilibre au niveau économique, parce qu'il y a des compagnies qui vont pouvoir se payer des fiscalistes, puis d'autres non. Puis les lois fiscales sont toujours contournées.
Oui, toujours. Oui, il y a toujours des loopholes.
Le but, c'est pas de gérer par la législation, mais bien par des incitatifs. De rendre un comportement souhaitable, avantageux économiquement pour les compagnies. Puis là, soudainement, tout le monde va se mettre à s'arrimer.
Ouais.
Si tu crées des loopholes, parce qu'il y en a tout le temps dans des projets de loi, ça fonctionne pas. Mais je préfère une taxe à laisser Mélanie Joly négocier avec Netflix, parce que regarde bien où va l'argent. Si c'est la TPS ou la TVQ qui embarque, ça s'en va dans le pot. C'est géré de façon indiscriminée par rapport à toutes les autres taxes de vente. Tandis que si Netflix qui décide de mettre une enveloppe d'investissement de 500 millions au Canada, ben ça s'en va dans les poches du lobby culturel. Et ça, c'est du monde qui sont quand même assez sournois pour ramasser de l'argent des contribuables. Je préfère de loin que ce soit géré dans le pot commun que ça aille directement dans les poches de certaines personnes.
J'essaie de comprendre comment tu vois que ça va dans les poches de certaines personnes.
500 millions que Netflix veut investir au Canada. D'ailleurs, peut-être même qu'il l'aurait investi de toute façon, puisque le Canada est un bon pays pour le cinéma.
Parce qu'ils ont investi dans plusieurs pays. Là.
Ne serait-ce qu'à Montréal, on a quand même les studios Mills, où il y a plein de films américains qui viennent se tourner ici. On a quand même une bonne plateforme pour ça.
À Vancouver, c'est pareil.
Mais le point, c'est que Netflix, s'il donne 500 millions pour la culture, à ce moment-là, c'est l'industrie culturelle qui va commencer à se chamailler pour avoir le gros morceau de la tarte. Alors là, c'est là que le lobby culturel rentre en ligne de compte pour dire « Nous, on veut ça pour ça, nous, on veut ça pour ça. » Gna, 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 gna.
Mais là, ce 500 millions-là, là, c'est Netflix qui l'investit ou comment ça va marcher? C'est ça que j'essayais de comprendre.
C'est ça que Mélanie Joly doit négocier. Savoir comment ça
s'installe. C'est pas fait encore.
Mais ce serait pour l'industrie culturelle canadienne, puis là, il y aurait possiblement quelque chose pour la culture francophone, on sait pas.
OK, mais ça, j'ai mon mot à dire là-dessus, là, puis je sais que les auditeurs, il y en a beaucoup d'entre vous qui n'allaient pas être d'accord, je comprends, mais le gros du financement en ce moment, puis le gros de la culture du cinéma au Canada, ça vient du Québec. Il y a énormément de choses qui viennent dans le milieu francophone. On a un star system, on a des vedettes, on a... la preuve, c'est que le nombre de réalisateurs qui se sont démarqués au Québec, à l'international, est quand même impressionnant.
On a de la pelletée.
Pour la quantité de personnes qu'on est, pour le bassin de population, il y a du talent incroyable au Québec. Puis ça, c'est pas vrai du côté canadien. Ils ont jamais été capables de développer leur star system du côté anglo-canadien.
Il y a Justin Bieber puis Drake.
Mais c'est pas des stars canadiennes, c'est des stars américaines.
Ils sont canadiens.
Ils sont nés ici. Mais écoute, la minute que... Tu sais, c'est Usher qui est venu chercher Bieber, mais qu'est-ce que tu penses qu'il a fait? Il a pris ses petites pattes puis il a couru aux États-Unis. Tu vas avec tes pieds. Il est allé, il a suivi l'argent là-bas. Parce qu'il n'y a pas de star system au Canada. Il s'essaye fort, là. À CTV, maintenant, t'as E-Talk Daily, là, qui est une espèce de show de variété, genre paparazzi. Puis il travaille tellement fort pour générer du buzz, puis générer un star system canadien. À Global, il y en a un autre, il y a E-Canada, qui est la version canadienne de E-Entertainment aux États-Unis. Puis Moi, je le regarde pas souvent, mais peut-être une fois ou deux par mois, je vais le pogner parce que ça me fait rire. Il travaille tellement dur à créer des stars. Puis là, il montre les gens, les vedettes canadiennes. Puis c'est du monde que tu n'as jamais entendu parler. Puis là, ils vont aller voir des espèces de rappers de Toronto, tu sais, habillés avec tu vois qu'ils sont en retard d'un point de vue de musique puis de vestimentaire. Leur style, c'est comme les États-Unis il y a 5 ans. Puis moi, je le vois comme une gang de wannabes. Fait que moi, ma perspective, c'est qu'ils en ont besoin de l'argent pour faire de quoi qu'il y ait de l'allure. Parce que le nombre de téléséries canadiennes, anglophones, qui sont regardables, il n'y en a pas beaucoup. Okay? Comparativement avec des séries québécoises, puis là, on peut dire ce qu'on veut de la qualité des séries québécoises, mais il y en a qui sont quand même très, très bonnes. Du côté canadien, ça n'existe pas. Il y a eu le seul grand succès qu'il y a eu dans les dernières 10 ans, c'est Corner Gas, puis ça a juste duré comme 4 ans. Puis ça a été regardé partout dans le monde. Ça a été une série qui a été revendue dans plusieurs pays. Parce que c'était très original, puis c'était merveilleux. Fait que ça prouve qu'on est capable de le faire au Canada, mais les compagnies ne veulent pas. La différence, c'est que Netflix va prendre ce risque-là. Netflix va prendre le risque que le CTV, CBC, Global, CTV, le risque qu'eux autres, ils ne veulent pas prendre, puis c'est pour ça qu'ils rediffusent juste les chaînes américaines, Netflix, je pense qu'ils vont le faire. Fait que peut-être que ça va débloquer une espèce de mouvement vers ça au Canada. Parce que nous, au Québec, ça fait longtemps qu'on a notre truc. Fait que moi, le fait que, tu sais, le contenu francophone de ces 500 millions-là, ça m'a pas trop, trop, trop énervé. Je trouve qu'on en a du contenu. Ça serait le fun que Netflix en fasse, puis il y en a un peu, mais je sais pas. Moi, ça me dérange moins, mettons.
Ben moi, c'est juste la peur que j'ai, c'est que ce soit juste une espèce de table où c'est ultimement le contribuable qui va payer pour
Ouais.
le lobby de l'industrie
Ben, c'est ça.
culturelle.
Moi, je veux pas que ce soit nous autres qui payent. Ça, là, c'est comme non, ça va faire.
Puis, comme je dis, j'ai bien des réticences avec des ententes négociantes, un gouvernement, puis une compagnie. Ah, j'ai de la misère avec ça. Je suis très sceptique. Mais le point avec ça aussi, c'est que Netflix a quand même l'avantage de pouvoir mettre des gens sur la map à l'échelle mondiale avec les sous-titres.
Oui,
Il peut écouter des
exactement.
séries de partout dans le monde. Alors, à la rigueur, Netflix, s'ils pouvaient diffuser du contenu du Québec, ça permettrait peut-être à des gens de l'écouter avec des sous-titres en anglais. Et le but, c'est de laisser les gens prendre des initiatives, prendre des risques. J'ai l'impression que le gouvernement est juste trop impliqué dans cette
Oui.
histoire-là pour que ça marche. Ça a vraiment
Surtout
un potentiel de se planter.
si c'est Mélanie Joly. Je regrette, là, mais moi j'ai zéro
Ben,
confiance dans
c'est
cette
planté
fille-là.
solide, à tout le monde en parle, en tout cas, non?
Ah, j'ai pas vu,
C'est de toute
non.
beauté, c'était un spectacle grotesque. C'était vraiment...
Ah,
Ah, le
ouais.
patiné, là! Mais pas
Mais
bien...
à patiner dans sa campagne municipale, il y a quoi, 5 ans?
Oui, je
Puis à
sais, mais...
patiner dans sa... À patine, elle fait juste patiner. Chris, elle devrait se trouver une place aux Olympiques l'année prochaine, puis faire un beau spectacle de patinage artistique, elle gagne une médaille d'or. Parce que, à part de patiner, elle vaut rien.
Non, mais elle patine pas bien, c'est ça l'histoire. C'est qu'elle patine, puis ça paraît.
Ouais.
Il y a des politiciens qui sont très,
Ouais,
très bons.
tandis que tu regardes Justin Trudeau, il est très bon à patiner, lui. Lui, il patine, là, puis il fait
Ben,
des belles
quand...
figures, puis il se lève la jambe.
Non, mais...
Ouh!
Quand j'écoute la télévision, mettons, en direct à RDI, c'est pas encore coupé au montage. Puis des fois, le journaliste pose une question, puis quand Justin Trudeau répond, hein, à la question, je ne comprends plus la question. Puis, en tout cas, toujours, juste pour faire une petite parenthèse ici sur la loi fiscale au Canada, je mentionnais que les compagnies étrangères comme Netflix ou encore iTunes n'ont pas à collecter la TVQ puis la TPS, mais elle est quand même exigible. Donc, vous, en tant que contribuable canadien, devez remplir un formulaire sur le site de l'Agence du revenu du Canada et déclarer votre petit 15 cents si vous achetez une toune à une pièce sur iTunes.
Tu
Évidemment,
me...
personne ne le fait parce que c'est du niaisage, mais techniquement, dans la loi fiscale, tous ceux qui ont acheté des tounes sur iTunes, qui n'ont pas payé de taxes,
On est des fraudeurs.
vous êtes tous des fraudeurs.
Ben, bonjour, je m'appelle Gabriel. Je suis un fraudeur. Ça n'a aucun sens.
Honte à toi et tous tes descendants.
Honte à moi et les 30 autres millions de Canadiens.
Dans le grand ordre des choses, à Montréal, ça va relativement bien. Au Canada, Le portrait s'est un peu assombri depuis la dernière fois qu'on en avait parlé. Le Canada a perdu sa place dans le top 10 des pays qui avaient l'indice de liberté économique le plus élevé au monde. Et ça, c'est l'indice de liberté économique, c'est important parce qu'il corrèle très très fort avec la prospérité et la liberté politique et toutes les autres libertés individuelles. Depuis qu'on mesure cet indice-là, dans les années 70, le Canada a toujours été dans le top 10. Toujours, toujours, toujours. Puis là, on est sorti du top 10.
C'est un peu
C'est
inquiétant.
quelque chose qui
C'est
me
un peu
préoccupe
inquiétant,
et
ouais.
c'est pas surprenant considérant le poids que prend le gouvernement dans l'économie. Justin Trudeau
Ah oui.
prend beaucoup de place, il y a beaucoup d'endettement.
On a un gouvernement interventionniste en ce moment, là,
Attention, c'est très centralisateur.
Ouais,
Et on le
absolument.
mentionnait, moi j'aime pas la centralisation parce qu'on
Ouais.
perd le contrôle,
Ouais.
on perd la proximité avec les résultats et les acteurs à qui on délègue la tâche de gérer à notre place. Parce qu'en fond, c'est ça le but. Nous, on est occupé à faire ce dans quoi on est le moins mauvais. C'est ça le but dans la vie. Faire de quoi qu'on n'est pas trop pire, puis on va déléguer certaines affaires. Puis la politique, ben, on le délègue. La seule façon qu'on peut vraiment évaluer si on en a pour notre argent, c'est que ce soit proche de nous autres. Puis Justin Trudeau, très centralisateur. Un peu à l'image de son père, d'ailleurs. Donc c'est ça, c'est une triste nouvelle. J'étais un peu déçu de voir ça, parce que c'était quand même un héritage dont le Canada pouvait être fier, le top 10 mondial depuis les années 70, en termes de liberté économique, qui est maintenant révolue. On était au même niveau que les États-Unis.
Fait que tout le monde, écoutez, si ça vous inquiète, moi je vous encourage à faire comme que je fais. Écrivez à vos élus. Appelez-les. Checkez c'est quoi leur numéro de téléphone, appelez-les, ils vont vous répondre, ils vont même vous donner leur position. Puis c'est important pour eux autres. Vous le croyez peut-être pas là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques par rapport à ça, mais ils écoutent, en quelque part ils sont là pour nous. Puis moi je vais te dire, Hélène Laverdière a commencé à me connaître.
C'est fatigant, Gab.
Non, en fait, sais-tu quoi? Moi, ma représentante, c'est une néo-démocrate. Je la connais personnellement parce que j'ai fait un petit projet vidéo avec elle à un moment donné. Puis c'est comme ça que je l'ai rencontrée, avant qu'elle soit élue. Puis c'est un personnage que j'ai trouvé intéressant. Je l'aime comme personne. C'est vraiment une bonne personne. De là, par contre, de ses points de vue politiques, je suis pas tout le temps d'accord avec ce qu'elle dit, mais au moins, elle a une bonne volonté. Puis je pense qu'on est trop souvent porté à croire que les politiciens, c'est tous des crosseurs, puis ils racontent n'importe quoi. Mais il y en a beaucoup de ces gens-là, surtout des gens comme Mme Laverdière qui sont. Des élus qui sont pas des ministres, qui sont pas des carriéristes en politique. C'est Madame Laverdière, elle a un parcours complètement différent de la politique. Ils sont vraiment là pour nous. Puis même s'ils sont pas d'accord, ils vont nous écouter. Puis c'est important de leur parler. Si pour vous autres, le fait que le Canada soit plus dans le top 10 de l'indice de liberté économique, faites de quoi? Écrivez. Moi, je sais que je vais le faire. C'est trop fort pour moi, là. C'est le genre d'affaires qui me met le feu au cul, là. Puis qu'après, faut bouger. Puis si on bouge pas, ça changera pas.
J'ai moins de chance que toi parce que je suis dans un cycle quartier-ville et ma députée est Mélanie Joly.
Oh my God, toi, là, il faut que tu ailles à tous les débats, man. Je vais y aller avec toi. On va s'amuser. Bon, fait que sur ce, mesdames et messieurs, on vous remercie encore une fois d'avoir été avec nous. Ça fait toujours plaisir de vous parler. Je vous rappelle nos points de communication. Et on a notre site web, québecquois.ca. À partir du site web, vous pouvez vous inscrire à notre balado de diffusion en cliquant sur le lien « Écouter ». Vous pouvez choisir iTunes ou Google pour vous inscrire. Vous pouvez aussi écouter nos balado-diffusions directement sur le site web. Et on a notre page Facebook, Québécois Balado, sur Facebook. Si vous nous aimez, prenez le temps de nous laisser un petit commentaire sur Facebook ou de même nous donner des étoiles, une étoile ou cinq étoiles. En général, les féministes nous donnent des une étoile, puis les gars nous donnent des plus qu'une.
Généralement, quand tu te fais pas aimer des féministes, c'est que tu fais de quoi de bien.
Ah, moi, je l'ai aimé la fois qu'on en a eu une qui m'a donné une étoile. Toutes les deux, on a bien ri. Fait que vos opinions vont jamais nous choquer. On va être toujours content de vous entendre. Puis si vous voulez nous laisser un message vocal, parlez-nous de vos élus locaux puis de vos opinions. 1-888-458-4443. 1-888-458-4443. 3. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.